Mimi, si je ferme les yeux, ta voix me berce.
Alors garde-les fermés, l'émission commence.
Ce week-end, j'ai surpris une conversation dans un café. Deux adultes, sans doute des amis, qui débattaient pour savoir s'il fallait dire les choses ou éviter les vagues. C'était à propos d'un collègue, d'une réunion, de rien de vraiment très grave, mais l'un d'eux a lâché une phrase qui m'a suivie toute la journée. On n'apprend jamais vraiment à dire ce qui compte. Et j'ai pensé à ça, après avoir quitté le café, parce qu'il y avait quelque chose de très vrai là-dedans, ce petit décalage entre ce qu'on ressent, ce qu'on voudrait transmettre, et ce qu'on ose réellement formuler. On grandit tous un peu comme ça, je crois, avec des phrases retenues, des questions qu'on s'empêche de poser, des sujets qu'on balaye pour ne pas déranger. C'est une question de pudeur, d'habitude, certainement de peur parfois. Et puis un jour, on se retrouve face à des sujets essentiels qui demandent précisément l'inverse, du courage, du calme et une parole qui est claire au lieu de flouter. L'éducation à la vie affective et sexuelle fait partie de ces sujets-là. C'est pas un thème compliqué en soi, mais il réveille souvent ce qu'on n'a jamais appris à nommer. Il ne s'agit pas de tout dire, ni de dire trop, il s'agit de trouver une manière de dire juste, une manière qui rassure, qui accompagne, qui donne des repères plutôt que des peurs, et qui permet dès le plus jeune âge de comprendre qu'on a le droit de ressentir, le droit de dire non, le droit de poser une limite, le droit d'être respecté. Aujourd'hui, on ouvre cet espace-là avec bienveillance et sans obligation de performance, sans discours figé. Juste une conversation pour comprendre comment parler de confiance, de relations, de consentement à hauteur d'enfant, d'adolescent, d'humain finalement. Et pour cela, on accueille aujourd'hui Anne Duval du Planning Familial 53 et du collectif Tout s'explique, avec elle on va essayer de dérouler ces questions qui sont parfois énormes et qui commencent souvent dans des toutes petites choses. C'est votre émission quotidienne, la JT du local qui commence et cette semaine nous consacrons notre temps d'antenne aux violences sexistes et sexuelles. L'idée est d'aller au-delà de ce qui semble souvent acquis déjà, pour plutôt regarder ce qui se tisse avant dans l'éducation, dans les mots qu'on choisit et puis dans ceux qu'on évite. On va questionner ce qui relie ces violences à nos manières d'apprendre, à respecter, à écouter, à poser des limites, des questions qu'on remet souvent à plus tard alors qu'elles devraient faire partie du présent. Aujourd'hui, on commence par là, par la manière dont on transmet l'affectif, le respect, le consentement.
Vous écoutez la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi donc Anne Duval. Anne, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es animatrice au sein du planning familial 53 et 72 et pour le collectif Tout s'explique également.
Oui, animatrice au planning familial. Alors, du planning familial 72 parce que c'est vraiment l'association qui chapeaute vraiment les actions en Mayenne. Mmh. On n'a pas d'association indépendante en Mayenne. On est une sorte d'antenne du 72, mais on a vraiment, voilà. Mon travail, c'est vraiment de mener des actions sur la Mayenne, des actions d'animation collective dans les établissements scolaires, par exemple, mais aussi tout lieu qui peut accueillir des jeunes, des groupes, donc des centres sociaux par exemple, la mission locale, enfin plein d'endroits, et aussi également un peu d'accueil individuel, donc c'est possible de me trouver aussi en rendez-vous individuel, j'ai des permanences dans des structures partenaires sur le département.
Alors aujourd'hui, Anne, on parle de vie affective et sexuelle, on se demande où placer la limite entre la peur de trop en dire et la peur de ne rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement éduquer à la vie affective et sexuelle, Anne?
C'est très vaste en fait, et ça dépend des âges, bien sûr en fait, et toutes les inquiétudes là que tu nommes, c'est souvent parce qu'on a peur qu'il y ait des propos inadaptés à l'âge, et effectivement quand on est professionnel de ce secteur-là, on adapte complètement notre discours, et le mot sexualité en fait en tant que tel, il apporte plein de questions, voilà, la sexualité c'est un peu un mot tabou, c'est un mot qui est difficile à appréhender, c'est pour ça qu'on parle pas forcément de vie affective et sexuelle quand on intervient auprès des enfants. On va plutôt être sur la vie relationnelle affective, voilà, parce que l'homosexualité il pose encore un peu souci, mais pour autant on peut considérer que un enfant il a un contact avec son corps, donc on peut considérer que c'est déjà quand même de la sexualité. Mais voilà, en tout cas dans la manière dont on intervient, on est vraiment avec les enfants plutôt sur la question du rapport à soi, du rapport à l'autre, quoi.
Pourquoi, malgré les décennies de sensibilisation, ces sujets restent encore si délicats à aborder? Pourquoi justement le fait de nommer, des fois, est encore un peu sensible?
Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le tabou autour de la sexualité globalement dans notre société, qui est, même si on, et c'est un peu paradoxal parce que par ailleurs on a accès très facilement à des contenus qui peuvent être hypersexualisés, et pour autant c'est quand même des choses dont on parle pas. Enfin, je sais pas, enfin, on peut faire l'expérience de voir, est-ce que j'ai régulièrement des conversations sérieuses, pas sur le ton de la blague, ou voilà, avec des amis ou ma famille sur des questions de sexualité. C'est pas très commun ou courant, donc en fait c'est un peu des non-dits, c'est des choses qu'on peut garder pour soi, et c'est vraiment hyper important. En fait, nous, notre travail, c'est vraiment de poser des mots, de dire en fait non, justement, on peut en parler, et en parler, informer, ça permet de maîtriser le sujet et justement de soulever des peurs, des craintes qui sont pas forcément justifiées, quoi.
Est-ce que tu dirais que la société a vraiment évolué sur ces questions, ou est-ce qu'on a simplement changé de vocabulaire, mis de nouveaux mots dessus, sans forcément aller plus en profondeur sur ces questions?
Alors bon, il y a des évolutions quand même, effectivement, mais ça dépend jusqu'où on remonte, quoi. Mais on peut repenser à toute la période des droits des femmes, quoi. Tout le militantisme féminisme des années 70, notamment. On pourrait même remonter avant, mais si on fait partir les choses un peu d'ici, bah voilà, c'est déjà l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est aussi un des premiers sujets qu'on aborde aussi avec, notamment avec les plus jeunes, c'est en fait de pas faire de différence genrée, que voilà, qu'on a autant de valeur quand on est un garçon ou une fille, qu'on a les mêmes possibilités, qu'on peut accéder aux mêmes choses. Et ça, c'est des choses qui sont très ancrées. En fait, le genre, enfin la binarité dans notre société, c'est vraiment quelque chose de très très fort, très très puissant, et on le voit dans l'éducation des enfants, que voilà, si on est une petite fille ou un petit garçon, on va pas avoir exactement le même destin, en fait, et ça, c'est important d'en discuter. En fait, l'important, c'est d'en parler. C'est pas tellement même si on n'y connaît pas grand chose, ou même on peut faire avec déjà ce qu'on est, ce qu'on a, on n'a pas besoin d'être hyper formé, mais déjà de parler de ces sujets là de faire réfléchir, de se poser la question. Il y a la littérature jeunesse qui est géniale aussi, parce qu'il y a plein d'outils en fait pour nous aider, nous soutenir, pour parler de tous ces sujets-là.
Qu'est-ce qui bloque le plus souvent? Est-ce que c'est la peur des parents, les institutions? Est-ce que c'est le manque de dialogue justement sur tout ce qu'on met derrière?
Peut-être un manque de dialogue et de communication, parce qu'en fait assez souvent, quand on explique ce qu'on va faire, notamment, il y a souvent un peu la peur, les parents vont être inquiets, voilà. Mais quand on explique ce qu'on va faire, les parents sont en général plutôt contents de se dire, finalement que cette mission-là, elle va être faite, et que eux sont pas toujours. Alors il y a des parents qui sont très à l'aise, mais il y en a d'autres qui peuvent l'être un peu moins, ou avoir des inquiétudes, effectivement. Et quand on explique ce qu'on va faire, c'est plutôt, tout le monde est plutôt content, en fait, parce que il y a des fantasmes autour de. Enfin voilà, on peut vraiment entendre des fois des choses, mais parce qu'on va nommer, les parties du corps. Et c'est pas parce qu'on nomme les parties du corps d'un enfant qu'on l'incite à quoi que ce soit. En fait, on lui permet juste de maîtriser les choses, de comprendre les choses. Par exemple, oui, on dit qu'une petite fille a une vulve, qu'un garçon a un pénis, et ces mots-là, faut s'entraîner à les dire régulièrement. C'est pas des gros mots, quoi. C'est vraiment, c'est le nez, un pied, une oreille, une vulve, un pénis.
On apprend très tôt à nommer les différentes parties de notre corps. Il n'y a pas effectivement à mettre des mots plus mignons, des mots plus, parce qu'en fait, il y a pas de problème.
Oui, et même et du coup aussi, une des raisons pour lesquelles cette éducation, elle est hyper importante, c'est la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. En fait, derrière aussi toute cette éducation à la vie affective, au consentement, c'est parce qu'en fait, il y a quand même ce grand problème sociétal des violences sexuelles. Et donc, du coup, c'est hyper important de permettre à un enfant de nommer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les histoires de violences sexuelles ou d'inceste, en fait, un enfant qui sait nommer les parties de son corps va être plus entendu qu'un enfant qui dit « il a joué avec... » En fait, qui utilise des petits mots, des métaphores, où on se dit « qu'est-ce qu'il est vraiment en train de nous raconter ?» Un enfant qui dit « il a touché mon pénis », ça a plus de force, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est hyper important, c'est de dire que ça aussi, c'est pour protéger les enfants, en fait, qu'on fait ça. C'est, voilà.
Et que ça n'induit rien d'autre, effectivement. Je voulais voir avec toi aujourd'hui qu'en fait, c'est important de poser les bases dès le plus jeune âge, que c'est possible, que c'est accessible, finalement, aux institutions, aux parents, un peu dans tous les domaines, et pas mettre de tabou là-dessus. À partir de quel âge est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit commencer à parler de consentement? Puisque quand on parle, je pense, de vie relationnelle, de vie affective, la notion de consentement, elle se met aussi à cet endroit-là, et elle est importante dès le plus jeune âge, on peut comprendre.
Oui, tout à fait. Ouais. Le consentement, c'est dès le plus jeune âge. Après, est-ce que derrière consentement, on entend consentement sexuel? C'est ça aussi la différence, effectivement. Quand on parle de consentement auprès des petits, de maternelle, en fait, c'est plus leur apprendre à exprimer un non. leur apprendre à accepter le non de l'autre aussi. Comment ça se passe, c'est quoi, qu'est-ce que ça génère comme émotion. Après, on essaie de nommer cette émotion. En fait, c'est plutôt un peu ce qu'on peut appeler les compétences psychosociales des enfants. C'est plutôt c'est autour des émotions, des besoins, de savoir s'exprimer et de comment j'entre en relation avec l'autre, quoi. Donc, c'est vraiment ces histoires-là. Il y a un exemple qu'on cite très souvent, c'est par exemple ne pas forcer un enfant à aller faire un bisou. Parce que déjà, si on oblige notre enfant à aller faire un bisou à telle personne, on lui envoie un peu le message qu'il n'est pas forcément maître de son propre corps et que c'est normal qu'il soit forcé à faire ça. Et que la politesse, c'est dire bonjour, c'est pas forcément faire un bisou, quoi. Donc c'est un peu l'exemple un peu classique qu'on donne souvent.
Donc concrètement, je me dis, on va pouvoir peut-être le faire pour différentes tranches d'âge, comme ça on est vraiment dans le concret. Parler de consentement à un enfant de 4 ou 5 ans, c'est avec ces termes-là, avec ces exemples-là du quotidien.
Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est vraiment parler du corps, et souvent c'est aussi partir de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils vivent, et c'est reprendre des situations, si on parle en milieu scolaire, dans la cour de récréation, de reprendre des fois des conflits, en fait, c'est aussi de la prévention contre le harcèlement, enfin en fait c'est tout ça, c'est vraiment comment les aider à se construire en tant qu'individu et qu'ils puissent s'épanouir et dans le respect d'eux-mêmes et des autres, quoi. C'est vraiment des...
Si on prend effectivement l'exemple des enfants en bas âge, quand on parle de consentement, quand on leur parle de consentement, est-ce que toi tu remarques effectivement cette gêne que nous on peut avoir, ou est-ce que finalement c'est un peu plus simple ? Qu'est-ce que tu remarques du terrain, toi ?
Alors, sur le terrain, actuellement, au planning familial, on travaille quand même assez peu avec les niveaux maternels. On va quand même être avec des un peu plus grands. Ça fait partie des choses qu'on a envie de développer. Donc, c'est vraiment notre projet, là, actuellement, d'aller vraiment développer des outils pour aller travailler auprès des plus petits. Après, c'est en tant que parent. Enfin, moi, je suis maman et j'ai plein d'amis, parents, avec les écoles aussi. Enfin, donc, du coup, on voit un peu déjà tout ce qui se passe, quoi. Et souvent, ce qui est important, c'est que c'est bien de laisser les questions venir des enfants, parce que les enfants, ils ont des questions des fois, mais aussi par rapport au corps, tout ça. Et c'est pas forcément de rentrer dans des grandes explications. Des fois, une réponse très simple suffit. Et en fait, ils ont leur réponse et ils n'ont pas besoin qu'on rentre dans de grands sujets, de grandes explications. La fameuse question, comment on fait les enfants, on peut être sur quelque chose de très simple et ça va leur suffire. Et en fonction des âges, on peut aller dans des détails un peu plus précis, quoi.
Avec les enfants, il y a quelque chose qui arrive parfois, c'est une question gênante qui nous prend un peu de cours. En tant qu'adulte, on se dit, il faut que je réponde justement pour ne pas créer de gêne. Est-ce que des fois, on peut reporter, décaler, comment réagir quand à un moment, on se sent pris de cours, qu'on dit là je sais pas comment en parler, j'ai besoin de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que parent ou adulte face à ce genre de situation?
C'est exactement comme tu dis, en fait. On peut complètement dire là pour l'instant je peux pas répondre à ta question, je vais y réfléchir et on en reparle. En fait, on a le droit de faire ça aussi, et puis de s'outiller. C'est dans ces moments là si on est un peu perdu, de se dire maintenant faut que j'aille trouver du soutien. Il y a un super livre qui s'appelle Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser, ce livre, il est vraiment, c'est un manuel pour les parents ou pour les adultes ou les éducateurs, éducatrices, et il est de 5 à 14 ans et c'est classé par âge. Donc en fait, ça va vraiment progressivement. Je sais que moi je trouve que c'est un super outil qui permet un petit peu de jauger effectivement en fonction de l'âge et puis en fonction de la maturité aussi de l'enfant en question, parce que des fois un enfant à 6 ans, il a pas forcément la même maturité. Il y en a qui sont prêts, qui sont très demandeurs et très interrogateurs, et d'autres pas. Donc en fait, il y a des bases d'âge et puis après on s'adapte aussi aux enfants, quoi.
Mais comment aider un adulte à trouver les bons mots sans tomber dans le malaise ni la surprotection? L'importance des outils, l'importance d'aller poser des questions aussi à des professionnels. On peut s'adresser à vous directement, le planning familial, un parent par exemple qui serait en demande pour...
Oui, tout à fait. Oui, c'est possible. On pourra laisser les contacts pour nous contacter directement. On travaille. Je travaille avec un centre de loisirs qui m'a fait intervenir pour animer un groupe de discussion de parents. Des parents qui avaient des enfants entre 5 et 12 ans, quelque chose comme ça. Et là, on va faire une deuxième session avec plutôt un atelier avec parents-enfants. Et il pourrait aussi y avoir d'ateliers qu'avec les enfants. En fait, c'est des choses qu'on peut vraiment organiser. Et les espaces, la façon groupe de parole, espace de discussion, c'est vraiment intéressant parce que moi, je peux amener des petits éléments, mais en fait, chaque personne a aussi des compétences. Et par le partage d'expériences, ça permet vraiment d'enrichir. Donc vraiment, le fait d'en discuter, quoi, vraiment de se dire, on s'attelle à la question et on en parle, en fait. Et après, oui, on peut venir solliciter des professionnels qui peuvent être soutenants, quand même.
Toute structure qui nous écoute peut justement aussi vous contacter, là, si ça interpelle des structures. Ce qui est important de retenir, peut-être, c'est que finalement, on risque moins de se tromper en tentant une réponse avec les outils qu'on a nous-mêmes que le silence quand même qui a longtemps été quelque chose dans l'éducation des jeunes filles qui par exemple découvraient qu'elles avaient des menstruations le jour où ça leur tombait dessus, le silence était pour le coup plutôt problématique. Il faut quand même essayer, tenter, prendre le temps de trouver les mots.
C'est vrai que la réponse t'es trop petit ou trop petite pour ça, c'est pas satisfaisant, en fait, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a un truc, il faut tenter quelque chose, mais quelque chose qui peut être très très simple, quoi. Voilà, mais effectivement, ouais, le silence, c'est pire que tout. Et en tant que parent, ce qui est là où on peut aussi donner d'autres sources d'explications, on voit pas forcément ces enfants grandir, enfin on voit pas forcément l'âge qu'ils ont vraiment ou la maturité qu'ils ont vraiment. Ils restent un peu petits, toujours plus petits que ce qu'on croit. Donc oui, en fait, des fois en tant que parent, on est un peu à la traîne. Et puis il y a aussi, on peut dire qu'il y a des fois des règles qui peuvent être un peu précoces aussi, de se dire. Donc effectivement, c'est un peu à quel moment j'en parle, mais c'est pareil, c'est des moments où, bah, en tant que maman, bah voilà, on peut, alors pas toutes les femmes ont des menstruations, enfin pour plein de raisons, mais je veux dire, on peut parler de ce qu'on vit nous, et puis de l'expliquer simplement, et de dire que ça viendra à un moment donné, mais ouais, vraiment, que ce soit pas un tabou, quoi, que ça puisse, et même petit, quoi, d'expliquer que ça, c'est quelque chose qui se produit dans le corps des femmes, quoi. Ça va plutôt les rassurer, en fait, d'avoir un adulte qui répond à leurs questions et qui est tranquille un peu sur le sujet, quoi. Si l'enfant il sent la gêne, il va sentir assez vite que c'est un sujet qu'il faut pas aborder, et il va pas forcément aller questionner, parce qu'il va sentir que, ah là non, là c'est un terrain, faut pas y aller, et donc du coup il va plus solliciter le parent, quoi.
La loi prévoit 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. Dans les faits, est-ce que c'est vraiment appliqué ? Comment ça se passe ?
Alors, effectivement, la loi, depuis 2001, elle prévoit ça. C'est quand même... Enfin, c'est pas appliqué à la mesure de ce qui est demandé, hein. 3 séances par an par niveau, c'est vraiment énorme. Ce qu'il y a eu comme actualité, c'est que là, en 2025, l'Éducation nationale a sorti un programme. Parce qu'en fait, depuis la loi de 2001, c'était un petit peu, fallait faire un peu avec les moyens du bord. Donc effectivement, il y a des établissements qui s'en saisissent, qui peuvent faire venir des associations, des personnes extérieures, qui sont formées et qui font les séances eux-mêmes. Mais là, vraiment, la nouveauté, c'est que maintenant, il y a un programme très concret sur lequel on peut s'appuyer, et voilà. Le problème, c'est que face à ce programme, il n'y a pas forcément eu des moyens supplémentaires qui ont été mis. Donc c'est un peu questionnant de se dire, bon voilà, maintenant on a des super outils. Voilà, il y a une sorte de volonté. En tout cas, toutes les personnes qui travaillent auprès des enfants, on sent quand même qu'il y a ce souhait qu'il y ait des choses qui soient faites. Mais après, c'est le temps, les moyens, comment on fait, quoi. Donc voilà, on tourne un peu en rond, je trouve, à cause de ça, quoi. Mais voilà, on s'outille, et c'est quand même un sujet dont on parle. Donc voilà, restons quand même optimistes.
En tant que professionnel, comment est-ce qu'on collabore avec des enseignants, avec peut-être d'autres associations, avec les parents, pour avoir un discours cohérent ? C'est important justement qu'on ne va pas forcément tous avoir le même dialogue, la même façon d'amener les choses, mais malgré tout, il faut se suivre et justement être cohérent.
Oui, tout à fait. Notamment quand on s'adresse aux plus petits. C'est vraiment quand on est vraiment sur des niveaux maternels et primaires, là il y a vraiment un travail à faire auprès de toutes les personnes qui interviennent auprès de l'enfant, quoi, que ce soit au niveau des professionnels mais aussi des parents. Là, c'est hyper important d'associer tout le monde et que tout le monde soit, qu'il y ait de la continuité, en fait. Voilà, ce qui est, alors ce serait super de pouvoir le faire aussi avec les ados, hein, mais ce qui est entre guillemets je sais pas si c'est moins nécessaire, mais en tout cas c'est moins fait, et quand nous on intervient en établissement scolaire, souvent sur des niveaux 4e, 3e, pour le coup, là, il y a pas du tout, les parents sont pas du tout associés à la démarche, quoi. Ça fait un peu partie des cours, des interventions extérieures.
C'est déjà intégré aussi, plus d'être dans les habitudes, dans
Oui, oui, tout à fait. Mais effectivement, nous, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que quatrième, troisième, c'est super de faire ça et il faut que ça continue. Mais on se rend compte qu'il y a besoin de faire plein d'autres choses avant. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des compétences psychosociales. C'est plutôt sous ces termes-là, plutôt que, et c'est très en lien avec l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, que voilà, ce qu'on parlait, comment on interagit avec l'autre, sur l'estime de soi aussi. Enfin, le travail vraiment sur l'estime de soi, de la confiance, ces éléments-là, ils sont hyper importants. S'il y a déjà eu tout ce travail qui a été fait, quand nous, on intervient en quatrième, troisième, c'est vraiment beaucoup plus facile d'aller sur des sujets un peu plus pointus et nous on peut aussi oui aller sur les sujets de bah, de type prévention des violences sexuelles qui sont des sujets qui sont pas forcément faciles quand on n'est pas formé voilà mais par contre tout ce qui va être vraiment les questions de base sur justement l'éducation au consentement, la vie affective, le corps, la puberté, tout ça c'est déjà assuré hein, dans les établissements scolaires en partie, quoi.
Quand il y a eu parfois des résistances face à ces cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, il y a comme eu cette idée qu'il y avait un risque de confrontation entre des valeurs qui sont amenées à la maison et celles qui sont amenées à l'école. Finalement, tout le monde normalement va dans la même direction, ce risque il n'est pas vraiment existant.
Non, bah en fait, c'est toujours des histoires de dialogue et de communication, quoi. Mmh. C'est vrai que dans nos cours aussi, on peut parler de bah, des différentes familles, on peut parler aussi d'orientation sexuelle, que voilà, qu'il peut y avoir des couples d'hommes, des couples de femmes. Mmh. C'est vrai que des fois, dans certaines familles, c'est pas forcément des choses qui sont dites ou qui sont beaucoup dites. Donc après, effectivement, ça peut des fois rentrer un peu voilà, en conflit, je sais pas. Mais en même temps, c'est le rôle de l'école de démontrer cette diversité-là. Et voilà, donc oui, il peut y avoir parfois des réticences, mais qui sont quand même assez vite levé si on arrive à dialoguer, quoi.
On parlait des différentes tranches d'âge. Comment est-ce qu'on parle de consentement à l'adolescence, par exemple? Le corps change, les émotions aussi. Comment accompagner ce passage-là avec les bons mots, sans moraliser aussi, en trouvant la bonne place et se dire, ben justement, est-ce que j'arrive pas trop tôt? Comment jauger justement son adolescent et se dire, est-ce qu'il y a des choses où il va falloir que je commence à aborder
Bah c'est au niveau de l'adolescence, c'est vraiment autour de la puberté. En fait, ouais. C'est vraiment soutenant pour l'adolescent de l'aider à comprendre ce qui est en train de se passer pour lui dans ce moment-là, de la puberté, des changements du corps aussi, mais au niveau du psychisme, en fait, des émotions. En fait, c'est vraiment une période qui a un gros bouleversement au niveau du corps. Donc, d'accompagner ça, c'est hyper important. Et qu'effectivement, c'est aussi un moment de la vie où on peut commencer à avoir des attirances et de réussir à en parler aussi, que ces attirances c'est normal et pareil, et après c'est comment est-ce qu'on interagit avec l'autre. Souvent nous dans nos séances on essaie de voir comment se passerait pour vous une relation amoureuse qui serait une très belle relation amoureuse et c'est quoi les ingrédients qu'il faut pour que ça se passe bien et en fait souvent là on en vient à amener cette question du consentement en fait qu'à tout moment de s'assurer que l'autre se sent bien dans la relation, qu'il se sent en confiance, respecté, que les rythmes de chacun sont respectés, enfin voilà, c'est des choses. Donc ouais, dans ces âges-là, on commence à parler d'amour, quoi, et de relations amoureuses, voilà, qui débouchera peut-être à un moment donné sur de la sexualité, mais là, c'est vraiment de parler de comment on construit une relation de confiance avec quelqu'un pour que finalement, le consentement, il soit respecté à tout moment, quoi.
Dans ce que j'entends de ce que tu évoques, je me dis finalement, la meilleure façon de jauger, c'est aussi en posant des questions. En fonction des réponses, on sait où en est le jeune en face de nous.
Oui, c'est souvent ce qu'on fait nous en animation, de vraiment partir de leur représentation pour pas calquer, plaquer un discours. On aime bien aussi quand des fois c'est préparé à l'avance et qu'il y a des questions anonymes qui ont été posées et donc du coup on répond vraiment à leurs interrogations. Mmh. Et c'est vrai que des fois on se rend compte que des fois, on vient faire un peu de la prévention classique. Quand on parle, peut-être les un peu plus grands, quand on va commencer à parler, enfin, quand je parle quatrième, troisième, on va parler de contraception, de prévention des risques, voilà. Mais en fait, quand on a leurs questions, ils parlent pas tant de ça, finalement. Ils vont plus tous parler de qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment quoi une relation sexuelle? Qu'est-ce qui s'y passe? Donc, à nous aussi d'amener aussi des choses un peu des éléments de réponse sur ces questions-là, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui est OK, pas OK? Enfin, il y a vraiment... Et ils sont vraiment plutôt sur ces notions-là. Et nous, on a quand même... Ça nous tient à cœur de faire de la prévention, pas par la peur, mais en disant que la sexualité, la vie sexuelle, ça c'est plutôt une joie dans la vie, c'est plutôt source de plaisir et comment on fait qu'on veille à ce que ce soit bien le cas et comment justement on lève certaines inquiétudes, donc voilà.
Le mot consentement, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup. Est-ce que toi, tu as le sentiment, justement, quand tu arrives sur les tranches d'âge ado ou jeune adulte, qu'il est vraiment compris comme ce qu'on doit y mettre derrière? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a encore des zones de flou?
Bah, en tout cas, il est vraiment très, très cité. Enfin, tout de suite, quand on commence à poser quelques questions, tout de suite, ils disent « Ah bah, le consentement, c'est important. » Enfin, en tout cas, les grands ados ou jeunes adultes ont bien compris que voilà, le consentement, c'était important. Donc, c'est déjà ça. Après, c'est quand nous, on essaie d'aller creuser un peu sur des questions un peu plus subtiles, sur comment on s'assure du consentement, très clairement. Enfin, dans la relation, vraiment très, très concrètement. Est-ce qu'on fait vraiment pas passer son désir avant celui de l'autre? En fait, il y a vraiment plein de petits sujets qui peuvent être abordés pour s'assurer. Et puis aussi des petits outils d'accord, c'est bien de demander le consentement, mais si la personne dit oui, mais que c'est pas un oui vraiment très enthousiaste, ou comment on fait pour s'assurer que ce oui, c'est un vrai oui? En fait, on essaie d'amener toutes ces subtilités-là pour qu'ils se posent un peu la question. Et souvent, on dit aussi quand on demande à quelqu'un s'il a envie d'aller plus loin avec nous, notamment vers une relation sexuelle, eh ben, ça peut être intéressant de proposer une alternative. Ou sinon, on pourrait faire autre chose, ça. Et en fait, si la personne se saisit de l'autre chose, c'est peut-être aussi qu'elle n'était pas... Enfin, c'était bien d'avoir proposé une alternative, parce que peut-être elle aurait dit oui, mais qu'elle l'aurait fait pour peut-être des mauvaises raisons, pour faire plaisir à l'autre. Parce que quand on est dans un couple, c'est des choses qui se font. Alors, c'est pareil, ça, on essaie d'expliquer que la sexualité n'est pas une obligation. Que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a un devoir face à l'autre. Enfin, et ça, c'est des choses qui sont importantes.
Qui sont encore intégrées, finalement. Est-ce que tu remarques sur le terrain des différences au niveau des genres? Est-ce que les jeunes filles, justement, sont plus OK avec le fait de poser des limites?
C'est un peu compliqué de répondre parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait quand même beaucoup dans nos séances, c'est quand même de la déconstruction des images pornographiques. Et en fait, à cause de la pornographie, j'ai l'impression qu'on recule un petit peu parce qu'en fait, je sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 80% des images pornographiques qui sont violentes, où le consentement n'est pas respecté. En fait, donc en fait. Même si je veux pas dire que tous les ados ont une consommation de pornographie, mais ils ont forcément à un moment donné vu une image, sollicitée ou pas sollicitée d'ailleurs, mais en tout cas ils ont quand même vu des images. Et après il y a aussi des ados qui consomment de la pornographie, et en fait ça s'ancre quand même dans les imaginaires des jeunes, et la question du consentement est quand même pas du tout présente. Donc en fait ça vient un peu ramener des notions de violence. Nous on travaille vraiment beaucoup là-dessus dans nos séances, en fonction de... Pareil, on parle quand même de leur représentation, mais assez vite, on se rend compte que leurs représentations, elles sont déjà imprégnées de pornographie, quoi.
À quel âge, j'ai plus les chiffres en tête, ça arrive très tôt finalement, ces premières images dans la vie d'un jeune?
Ouais, en fait, il y a plusieurs chiffres, mais je sais que c'est à 12 ans, il y a 90% des enfants qui ont déjà vu une image. Qu'elle soit sollicitée ou pas sollicitée, c'est ça. Ça ne veut pas dire que l'enfant il a fait une démarche d'aller faire une recherche, mais ça va très vite en fait avec les téléphones, avec les réseaux sociaux. Enfin, en fait, il y a quand même un accès assez facile, quoi. Et aussi ça fait partie de notre travail de dire que le consentement c'est aussi sur les réseaux. C'est pas parce que je suis derrière mon téléphone que je peux m'autoriser plus de choses que ce que je ferais dans la vraie vie, quoi. Et ça c'est encore c'est tout un champ. Où il faut être hyper vigilant et il faut qu'on continue à se former et à suivre un peu ce qui se passe dans les téléphones de nos enfants,
c'est
nos adultes.
Ça, puisque finalement les téléphones arrivent plus vite, on peut faire de plus en plus de choses et notamment s'inscrire sur les réseaux, avoir déjà un profil. C'est important de préciser que le jeune à 11 ans, 12 ans, il n'a pas encore la maturité finalement pour s'emparer de cet outil-là. Les dérives arrivent, on peut bien expliquer, mettre un cadre, il y a un niveau de maturité pour...
Bien sûr, ouais. La loi, elle dit pas de réseaux sociaux avant 13 ans, et c'est pas du tout le cas. En fait, il y a des raisons, il y a vraiment des raisons de santé, de santé mentale, en fait, vraiment très importantes. C'est très compliqué de se réguler quand on est encore un enfant ou un ado, quoi. Et du coup, on a vraiment un rôle, nous, à jouer en tant qu'adultes autour de ça, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est encore tout un champ assez qui peut être complexe parce qu'il y a un peu le fossé des générations et des choses qu'on n'a pas forcément connues nous et qu'il faut vraiment s'y atteler en fait pour les protéger aussi, quoi.
pas hésiter à regarder, jeter un œil sur, en tout cas, ou poser des questions sur comment nos jeunes utilisent leurs outils, s'ils le vivent bien aussi. La notion de consentement est entrée dans le cadre légal aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé assez récemment? Ça a été voté?
Oui. Donc, c'est passé dans la loi, dans la définition du viol, en fait. Oui. Parce qu'en fait, pour la définition du viol, quand il y avait une plainte, en fait, il fallait prouver qu'il y avait eu de la menace, de la contrainte, de la violence physique ou de la surprise. Et c'est vrai que du coup, d'intégrer la notion de consentement dans la loi fait qu'il faut que la personne s'assure du consentement de l'autre. Donc ça vient amener un outil supplémentaire qui va permettre du coup à la justice d'être plus efficace, parce que même si nous on invite les personnes qui sont victimes à aller porter plainte, on comprend aussi celles qui le font pas, parce qu'en fait on n'est pas du tout sûr d'aboutir à une condamnation, et c'est un parcours qui est un peu un parcours du combattant, de la combattante, pour obtenir réparation. Et en fait, dans beaucoup de cas, ça se passe pas comme ça, quoi. Donc j'espère que cette notion de consentement dans la loi, ça va améliorer ce fonctionnement de la justice.
Je suis très contente, puisque tu as amené avec toi d'autres outils, d'autres ouvrages sur lesquels on peut s'appuyer si on se pose des questions sur toute cette thématique du consentement, de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Oui, alors j'ai amené pour les plus jeunes, ça s'appelle Le Petit Illustré de l'Intimité. Il existe 4 tomes. Là, j'ai amené Le Petit Illustré de l'Intimité, du pénis et de la vulve. Et en fait, ce sont des petits livres illustrés, ce sont des dessins qui sont très jolis et qui permettent justement de venir parler d'intimité et du corps. Et on peut en commencer à en parler. Alors, ça dépend des enfants. Ça peut être dès 5 ans, mais ça peut être à partir de 6 ans ou 7 ans. En fait, il faut voir aussi l'intérêt de l'enfant, quoi. Quand on lui montre, s'il ne voit aucun intérêt, faut pas forcer non plus.
Évidemment.
Et ce qui est chouette, c'est que même, moi, je trouve que même en tant qu'adulte, c'est présenté de façon tellement claire que ça permet... nous aussi de clarifier des choses, quoi. Donc moi j'aime bien aussi, en tant qu'adulte, je dirais pas que j'ai appris des choses en tant que telle, mais quand même c'est venu me mettre un peu des choses vraiment plus au clair.
Parce qu'on n'a pas eu ce bagage-là et cette manière d'amener les choses, plus jeune. Et on se dit, en fait, on peut s'appuyer sur ces ouvrages-là. Effectivement, oui, c'est super intéressant.
Ouais. Donc ça parle du corps, ça parle de ce que c'est que l'intimité, ça parle du genre, ça parle de l'amour, du consentement, des règles, des changements du corps.
La puberté, ce qui se passe.
Ouais, la puberté, que tous les corps sont différents. Enfin, voilà, il y a vraiment... c'est vraiment des super outils, donc alors ça peut être dans les classes, ça peut être soit personnellement ou demander à vos bibliothèques de les acheter
et de se dire on a une petite fille, on peut très bien lui offrir aussi le livre sur ce qui se passe
sur les garçons.
Tout le monde est concerné par ce qui se passe dans le corps l'autre aussi, c'est intéressant.
Ouais, tout à fait. Celui que j'ai déjà cité tout à l'heure, donc Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser, qui est un peu construit comme un manuel pour les parents. Donc c'est de Charline Vermont. Ça c'est vraiment un super outil qu'il faut. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Je fais la promotion de certains ouvrages, pas d'autres, mais voilà, on peut pas parler de tous.
Non, mais déjà ça donne des outils si on se dit je ne sais pas par où commencer. Des fois il y a tellement d'ouvrages, on ne sait pas sur lesquels se baser.
Et cette même autrice a fait un autre qui a le même titre, qui s'appelle aussi Corps, amour, sexualité, mais par contre c'est pas adressé aux parents, c'est adressé aux personnes à partir de 16 ans. Donc et là c'est pareil, c'est vraiment un manuel sur toute la vie. La vie amoureuse et sexuelle qu'on peut en tant qu'adulte lire et qui est vraiment plein de ressources. Alors sur la littérature jeunesse, franchement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc il faut vraiment aller explorer par vous-même. Mais là, j'en ai pris un qui s'appelle Ton corps t'appartient, de Lucia Serrano, qui vient expliquer les parties du corps. Et ça vient aussi justement aborder la question des violences sexuelles, mais sans que ce soit... de façon assez douce quand même. Donc juste de pas faut pas transmettre de la peur. L'idée c'est pas de transmettre de la peur, mais c'est de pouvoir dire ça existe et c'est pas normal. Et après j'ai pris des livres plus pour les adultes pour le coup. J'ai pris le livre d'Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Et ça, c'est, je trouve que c'est vraiment ce qui se passe dans le milieu d'édition et même au niveau du mouvement féministe actuellement. C'est hyper intéressant parce qu'on voit que le féminisme, c'est pas juste le droit des femmes, c'est les droits de tout le monde, parce qu'en fait, les hommes sont aussi des victimes de notre mode de fonctionnement de la société patriarcale, quoi. Mmh. Et en fait, de montrer que voilà, que tout le monde est perdant, en fait, en gros, et qu'on arrête tous à y gagner à plus d'égalité. Et donc c'est très historique avec plein d'exemples. Vraiment, c'est une lecture très, très intéressante. Et quand on a des enfants qui sont des garçons, ça donne aussi des clés qui peuvent être intéressantes. Et là, j'en ai un autre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle « Grandir sans tabou, comment parler sexualité avec les enfants ». C'est un livre qui est édité par La Déferlante. La Déferlante, c'est une revue féministe qui est aussi une maison d'édition. Et là, il est hyper intéressant parce qu'en fait, les deux autrices, elles se mettent vraiment en situation et elles disent quelles phrases elles utilisent vraiment pour parler à leurs enfants. Donc, c'est vraiment très, très concret. Alors après, elles disent pas qu'il faut absolument faire comme elles. Voilà, elles donnent des billes. Après, c'est quand même très documenté. Hein. Mais voilà, après, il faut que chacun... C'est des outils pour essayer un peu de s'approprier le sujet et de voir comment nous, on aurait envie de le traiter. Quoi. Mmh. Mais c'est hyper appliqué, c'est très, très concret. Quoi.
Et on en revient sur des points qu'on abordait quand on se sent gêné, tel sujet, je ne sais pas comment l'aborder. Mais en fait, tous ces outils nous permettent d'y aller.
En fait,
quoi.
C'est ça. C'est, si on se sent gêné, peut-être on se dit, peut-être qu'il faut que j'aille creuser un peu la question et déjà comprendre et puis trouver des outils pour réussir à répondre à cette fameuse question.
Tous ces ouvrages seront sur notre story sur Facebook et Instagram si jamais vous voulez aller jeter un œil et vous emparer des références. Est-ce qu'on peut rappeler comment est-ce qu'on peut prendre contact avec le planning familial ou même le collectif Tout s'explique, en rappelant évidemment que notamment pour les jeunes, les rendez-vous peuvent être confidentiels totalement.
Alors donc on a un numéro de téléphone et une adresse mail
que l'on rappellera sur le podcast, l'article du podcast de l'émission. Vous pourrez retrouver les coordonnées.
Moi, j'ai des temps de permanence dans des, comme je vous disais, où je suis hébergée par différentes structures. Et la nouveauté, ça va être qu'à partir de janvier, on va avoir un bureau à la Maison des Associations de Laval. Donc en fait, il y aura la possibilité aussi de venir me rencontrer là-bas. Donc c'est vraiment un élément important. Et on est aussi en train de structurer un groupe de bénévoles. Donc au planning familial. Donc pareil, si vous avez envie d'être, si tous ces sujets ça vous passionne, n'hésitez pas aussi à me contacter pour intégrer la commission bénévole du planning familial qui est en train d'émerger.
Parce que le milieu associatif a besoin de mains fortes bénévoles, c'est essentiel aujourd'hui tout particulièrement. Oui. Merci beaucoup Anne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle à l'auditeur de l'autre radio que l'ensemble de cette émission, si on arrive en cours de route, peut être écouté donc sur le site de l'autreradio.fr sur la page L'agité du local. Merci Anne.
Vous écoutez L'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Et nous voilà donc arrivés au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Et alors Frédéric Benoît nous a rejoint. Bonjour Frédéric.
Bonjour Margot.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la tolérance. Donc nous sommes à la lettre T comme tolérance. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un rapport qui a été remis au gouvernement par une institution qui s'appelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bon, c'est une vieille institution, elle a été créée en 1947, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans la mouvance de la création après de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et avec le même auteur, René Cassin. Et depuis 1990, ce rapport qui est remis au gouvernement fait l'état des lieux du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie en France. Donc ça fait 35 ans, 35 rapports. Alors c'est intéressant de pouvoir comparer, et notamment dans ce rapport, il y a un baromètre qui vise à évaluer la tolérance des Français vis-à-vis des minorités et des préjugés racistes. Alors, bon, un petit mot sur la tolérance. Qu'est-ce que c'est que la tolérance ? Alors j'ai repris la définition du dictionnaire. Respect de la liberté d'autrui, de ses manières de penser, d'agir, de ses opinions politiques et religieuses. Alors que dit ce baromètre ? C'est intéressant de regarder. Et d'après ce baromètre, la tolérance reste une valeur largement partagée.
D'accord.
Sur 35 ans, la tendance est toujours croissante. Et elle est d'autant plus forte chez les populations nées après 1987. 81% de cette tranche d'âge se dit tolérant. Alors, on peut être surpris quand même par rapport à la conjoncture, par rapport à ce qu'on entend à droite et à gauche, surtout quand on voit que les thèmes du racisme, de l'antisémitisme, ça rythme un peu l'agenda politique en ce moment. Hein. Et puis, on peut rappeler aussi tous les événements des années passées, hein, les attentats terroristes, les atteintes et les actes antisémites, la polémique sur le voile, les explosions urbaines, puis la violence au Moyen-Orient hein, qui alimente largement les débats. Bon, ben, c'est un fait, quoi. Il y a cette tolérance de plus en plus forte. Alors, il faut dire que la tolérance, qu'est-ce que c'est ? La tolérance, c'est un effort. Hein, si on est tolérant, ça veut dire qu'on fait un effort sur soi par rapport à des choses qu'on n'accepterait pas spontanément. Donc, on fait un effort sur soi et on essaye de vaincre ces préjugés. Et préjugés qui s'appuient sur des stéréotypes. Alors, là-dessus, on peut dire que certains hommes politiques ne sont pas aidants. Hein, certains politiques qui reprennent des discours extrêmes n'aident pas à construire une tolérance au sein de la société. Bon, je vais citer des mots qu'on entend, des mots assez brutaux, hein, quand on entend qu'on parle de décivilisation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Contrer le processus de décivilisation. Alors, ça veut dire que notre société est en train de perdre sa civilisation. Mmh. Bon, quand même, on n'est pas à l'époque de l'Allemagne nazie, hein, c'est pas comparable. Quand on entend « ensauvagement », il y a un ensauvagement de la société. Alors je cite une phrase, et je ne cite pas les noms, mais ce sont des hommes politiques qui font partie de l'exécutif quand même, hein, qui disent « stopper l'ensauvagement d'une certaine partie de la société ». Bon, ça n'aide pas à acquérir cet effort de tolérance. Donc heureusement, malgré ces politiques, il y a ce constat de la tolérance. Qui n'empêche pas, le rapport le dit bien, qui n'empêche pas, c'est pour ça que je dis que c'est un effort la tolérance, qui n'empêche pas les personnes d'être toujours gouvernées par certains stéréotypes. Le souci majeur des Français, dit ce rapport, c'est les conditions sociales et leur pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est leur crainte. Pouvoir d'achat et en deuxième, c'est le système de santé. Et puis là-dessus, malheureusement, les préjugés des stéréotypes reviennent à grands pas. Et qui est-ce qui est visé ? C'est pas étonnant, vu tout ce qu'on a dit sur l'immigration et les lois qui en ont découlé, c'est les immigrés. Hein. C'est le bouc émissaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans ce rapport ? Aujourd'hui, alors je cite hein, ce que cite le rapport, des phrases qui ont été relevées. Aujourd'hui en France, on ne se sent plus chez soi. Les immigrés viennent pour profiter de notre système social. Les immigrés sont la cause directe de l'insécurité. Les problèmes d'intégration sont avant tout liés aux personnes elles-mêmes qui ne se donnent pas les moyens de s'intégrer. Bon, voilà, ça, c'est des stéréotypes. Mmh. Alors, pour vaincre ces stéréotypes, il faut faire appel quand même à la bienveillance de nos hommes politiques. Ça n'arrange rien de stigmatiser et de faire des textes et des lois qui visent des personnes en particulier. Alors, je me permets de renvoyer l'auditeur au podcast sur l'immigration. Parce que c'est un flou, quoi, cette histoire de migration. Parce qu'elle n'est pas si importante que ça. La migration en France n'est pas si importante que ça. Donc ça devient le bouc émissaire des peurs. Et les discours extrêmes s'arrangent pour construire et pour alimenter cette peur. Bon, c'est quoi l'ambition, hein ? C'est ce populisme. C'est simplement acquérir le pouvoir à la place de ceux qui ont le pouvoir. Hein, il ne faut pas se leurrer avec ça. Donc j'invite les auditeurs à conserver cet optimisme sur la tolérance. Nous sommes de plus en plus tolérants. C'est vrai que c'est un effort d'être tolérant.
Merci beaucoup. L'ensemble des podcasts de la Ligue des droits de l'homme est à retrouver en effet donc sur le site internet de l'autreradio.fr avec donc cet abécédaire que vous nous proposez, Frédéric. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Anne Duval d'avoir été avec nous. Merci à Lénaïk Folzour qui signe la musique originale de cette émission. On regarde ce qui nous attend sur les ondes de l'autre radio pour le reste de la journée à 19h. Vous retrouverez Solénoïde. Ce soir, on ouvre les oreilles et on voyage autrement, là où les sons prennent parfois des chemins que personne n'avait prévus. Et à 20h, place à une rediffusion de la discothèque et ce sera en compagnie d'Adèle. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Ensemble, nous parlerons de nos premières fois, de nos désirs, de nos imaginaires, de ce qu'on ne nous apprend jamais sur l'amour avec la sexologue et thérapeute de couple Andrea Montaufray. D'ici là, prenez ce début de semaine sans trop vous bousculer. Il n'y a pas d'urgence à tout faire d'un coup. Vous le méritez. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ils en ont assez entendu, non ?
Oui, mais ils reviendront, je te parie.